Allez, mais je n'ai déjà pas automatisé.
Que Dieu vous bénisse, on va commencer la
Et je
réunion.
présente la réunion. Et tu présentes la réunion.
Voilà, nous allons prier. Qui veut prier? Le présenter au Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Te remercions, Seigneur. Parce que tu donnes la possibilité de nous réunir et de nous retrouver ensemble. Pour écouter ta parole, afin que ta parole puisse nous pousser, faire aller de l'avant, nous modeler, aide-nous, afin que nos oreilles puissent être ouvertes pour laisser entrer ta parole. Continue à nous guider dans toute la vérité. Nous savons, Seigneur, que toi tu prends soin de nous tous, et nous avons besoin de ta guide. Nous avons besoin de l'enseignement qui descend du trône de la grâce, afin que quand tu viendras, nous puissions être prêts pour écouter ta voix, la reconnaître ta voix. Nous sommes ton troupeau qui avons besoin d'être conduits dans le bon pâturage, de cette bonne herbe. Guide-nous, bénis-nous avec les lèvres de ceux qui vont parler, nous tous, afin que nous puissions te laisser agir dans notre vie. Afin que nous puissions être guidés par toi toutes choses. Nous te remercions. Bénis, Seigneur, ce rassemblement préside à chaque chose afin que la gloire aille à ton nom, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. À toi l'honneur, la gloire. Accorde-nous, Seigneur, ta bénédiction, ta guide en toutes choses. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Donc le frère Carmelo veut dire quelque chose. Je voulais lire, j'avais à cœur de lire dans Ésaïe chapitre 3, le livre d'Ésaïe chapitre 3. Je l'ai lu samedi matin. Premier verset, Ésaïe 3. Car voici le Seigneur, l'Éternel des armées hôtes de Jérusalem et de Juda, le soutien et l'appui. Tout soutien de pain et tout soutien d'eau. L'homme fort et l'homme de guerre. Le juge et le prophète. Le devin et l'ancien, le chef de 50 et l'homme considéré, et le conseiller, et l'habile ouvrier, et celui qui s'entend aux enchantements. Et je leur donnerai des jeunes gens pour être leurs princes, et de petits enfants domineront sur eux, et le peuple sera opprimé, l'homme par l'homme. L'homme par l'homme et chacun par son voisin. Le jeune garçon usera d'insolence contre le vieillard. Et l'homme de néant contre l'homme honorable. Alors, si un homme saisit son frère dans la maison de son père, disant, « Tu as un manteau, tu seras notre chef, et cette ruine sera sous ta main. » Et il jugera en ce jour-là, disant, « Je ne puis être un médecin, et dans ma maison, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de manteau. » Verset 12. Quant à mon peuple, des enfants l'oppriment et des femmes le gouvernent. Mon peuple, ceux qui te conduisent te fourvoient et détruisent le chemin de tes sentiers. L'Éternel se tient là pour plaider et il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entrera en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses princes, disant, « Et vous, vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre et dans vos maisons. Qu'avez-vous à faire de fouler mon peuple ?» et de broyer la face des pauvres, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Ici, il y a beaucoup de choses. Mais ce que je voulais dire est ceci. Donc je lisais ça samedi matin, vendredi soir, j'avais regardé un film. C'était dans l'armée la guerre. C'était une guerre entre Israéliens et bon, de Libanais, c'est Palestiniens ou Libanais. Et alors, derrière ce char, cette armée, il y avait 5 jeunes. Et celui qui devait appuyer sur la gâchette, il n'avait jamais tiré. Et alors, non, il devait prendre des décisions. On disait, allez, il faut tirer, tirer. Mais lui, il devait prendre des décisions. Mais c'est lui qui devait, justement, qui avait justement la responsabilité d'appuyer sur la gâchette. Parce qu'il devait tirer contre l'ennemi. Ce n'est pas comme à l'entraînement. Là, il fallait tirer pour de vrai. Et là, il y avait des femmes, des enfants. Et alors, il n'a pas eu le courage de tirer. Et alors, il y a eu des conséquences graves. Et là, il y avait le commandant. Et lui aussi, lui, il ne savait pas prendre des décisions. Donc, c'était comme il est écrit ici. C'est Dieu enlève l'ancien, le prophète, il enlève ses ministres, il enlève tout le monde, alors il va se retrouver là avec des gens qui ne savent même pas prendre des décisions. Et on ne saura pas gagner la bataille. Alors après avoir vu ce film vendredi, d'habitude, vous savez que j'étais dans une entreprise. Il avait eu un japonais. Et à l'époque, je devais. Donc lui, il pouvait pas fermer, mais moi, je devais fermer c'était mon tour de fermer l'usine, disons. Alors, je suis allé là-bas trouver mes ex-collègues pour dire un peu bonjour. Et là, j'ai trouvé un autre chef là, qui était un peu comme avec cette armée. Il y a quelqu'un qui est vieux, qui est là, qui est ancien, et un autre qui ne sait pas prendre des décisions. Donc si quelqu'un ne sait pas prendre des décisions, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas chef, mais qui prend les décisions. Et alors on peut aller de l'avant. Mais si, il n'y a personne qui sait prendre des décisions, il n'y a personne qui est, disons, qui a la connaissance juste et qui par exemple, bon, donc c'est par exemple on fait des médicaments qui ne sont pas de bonne qualité, voilà, ça fait des problèmes. Alors là, j'ai eu cette petite pensée. Alors le matin, le lendemain, je lis ceci et alors ça m'a un peu éveillé l'esprit tout cela. C'est comme au travail, s'il n'y a pas un bon guide pour nous faire aller de l'avant, ou bien dans la guerre aussi, si on ne sait pas quoi faire, c'est comme ça que, en lisant ceci, dans l'Église, c'est la même chose. Si on n'accepte pas la volonté de Dieu, si on ne se laisse pas guider par Dieu, alors j'enlèverai le prophète, l'ancien, l'homme de guerre. Et je voudrais comme chef des petits gosses, des petits enfants. Et c'est comme ça que ce soit dans le travail, dans la bataille. Et après, j'ai aussi lu après dans Ecclésiaste. Et alors, c'est quelque chose de vraiment glorieux, de grand, de faire voir que vraiment la sagesse, c'est celle qui te permet de vaincre la bataille. Ecclésiaste 9. Donc, je vous ai noté Ecclésiaste 9 pour Ecclésiaste 9. Donc je pense que c'est 14 qu'il a dit. 14. Ecclésiaste 9, 14. Il y avait une petite ville Il y avait peu d'hommes dedans. Et un grand roi vint contre elle et l'investit, et bâtit contre elle de grandes terrasses. Or, il s'y trouva un homme pauvre et sage qui délivra la ville par sa sagesse. Mais personne ne se souvint de cet homme pauvre. Donc il suffit de sagesse. Et je crois que dans l'Église, c'est la même chose. Dans ces derniers temps, en lisant cela, si Dieu enlève le prophète, enlève sa parole, voilà que même l'Église, elle ne sait pas quoi faire. Et j'ai fini par lire quelque chose que nous connaissons tous, mais que j'ai encore lu hier. On dirait que j'ai déjà la même chose le dimanche, Éphésiens 4, à partir du verset 1er. Alors, encore, j'ai encore lu ceci. Éphésiens 4:1. Plutôt Éphésiens 4, à partir, celui qui a donné, c'est plutôt le verset 11. Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et comme docteurs, en vue du perfectionnement des saints pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Donc Dieu nous a donné des dons, de la sagesse, afin que tous nous parvenions à ce niveau de sagesse. Mais on dit que c'est... Et puis, verset 13, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. On finit toujours là, à la pleine connaissance du Fils de Dieu. Et en pensant à cela, Jésus a dit à Pierre, « Toi, êtes-vous, que dites-vous que je suis ? Toi, tu es le Fils de... Tu es le Fils de Dieu. » Mais la révélation, c'est le commencement, puis la pleine connaissance, c'est Jésus-Christ dans ma vie. Je dois me regarder en Jésus-Christ. Je dois pouvoir me retrouver en Jésus. Donc, ce n'est pas que de la connaissance, mais c'est la juste connaissance du Fils de Dieu, dans la parole de Dieu, quand je me regarde dans le miroir, dans un miroir. Donc je dois continuellement lire et pendant la journée. Donc je parle pour moi, on parle de beaucoup de choses dans la journée. Mais après, quand on lit la parole, et quand on parle de cette pleine connaissance, je me dis moi où j'en suis. Pas pour enseigner les autres, mais pour moi. Où est-ce que j'en suis? Ça doit être dans ma vie qui me permet d'atteindre cet objectif qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on doit vivre nous? Comment est-ce que je dois vivre moi? Que ce soit dans la loi humaine, en toute chose, il y a tout dans la parole de Dieu. Il faut arriver à la pleine connaissance du Fils de Dieu. Mais pour ma vie, à moi, pas pour l'enseigner aux autres. Parce que sinon, on sera toujours... Parce que si je veux toujours enseigner aux autres, c'est comme si moi, je me mets moi à part. C'est comme si j'étais un enfant qui enseigne aux autres enfants. Mais si on laisse agir Dieu dans nos vies, alors là, on laisse parler les ministères afin que nous parvenions à la pleine connaissance du Fils de Dieu. Et ce n'est pas pour écouter un message, moi, mais le message, ça sert à me faire vivre l'Évangile, moi, pour arriver à cette stature, pour devenir humble, pour devenir ce que nous enseigne la parole de Dieu, c'est-à-dire ressembler à Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Frère Franco dit, voilà, c'est pour ça que nous avons toujours besoin vraiment de la guide, on a toujours besoin d'une guide, d'un guide. Naturellement, être guidé, là, Dieu l'avait un peu enlevé ici et là, mais maintenant, aujourd'hui, nous savons qui est le vrai guide, c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Voilà pourquoi aujourd'hui, jour de Pentecôte, il faudrait vraiment crier, nous faire comprendre vraiment comment on a besoin de la vie de Christ, personnellement, chacun de nous personnellement. Pas seulement dans le parler, mais vivre ce que Dieu nous a demandé de vivre. Ça, c'est la vérité. Ça doit être comme ça. Et ça doit être comme ça. Et Dieu va dans cette direction. Seulement qu'il y a toujours un grand problème aujourd'hui, mais qu'il y a eu toujours dès le commencement. Donc depuis que sont sortis d'Égypte, ils voulaient tous un roi, c'est-à-dire une personne qui les guide, un homme qui les guide. Oh, que Dieu ne nous parle plus, on a peur que Dieu nous parle, que Dieu ne nous parle plus, nous voulons un homme. Donc ils avaient la peur d'écouter la voix de Dieu à l'intérieur de nous qui veut nous guider, qui veut nous diriger. Non, Moïse, toi, parle-nous. Et voilà. Et c'est comme ça que cette chose a continué, et ça continue encore aujourd'hui. Récemment, nous avons lu, comme on l'avait dit, je crois que le frère Stéphane, on avait parlé de cela, ils ont choisi la loi plutôt que la guide du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils sont restés là. Voilà pourquoi Dieu doit faire grâce à son Église, à nous tous, à son Assemblée, pour pouvoir vraiment laisser le Saint-Esprit, parce qu'il est là, il est au sein de l'Église, il est là. Il veut prendre la première place. Et donc il faut le laisser nous guider, nous tirer dans le cœur, sans avoir besoin. Bon, il est vrai qu'il faut qu'il y ait des gens que Dieu a établis, c'est vrai, bon, on l'a lu, et on le voit, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il doit y avoir une vraie Pentecôte, une vraie rencontre personnelle, directe avec Dieu. Ça, c'est nécessaire. Absolument nécessaire. C'est une chose très importante. Parce qu'autrement, c'est de la théorie, comme on dit, et aucune pratique. C'est vrai. Mais nous voulons de la pratique. Amen, alléluia. Le message, c'est la pratique du chrétien. Comme on lit dans Ecclésiaste, dans les Proverbes, dans les Psaumes, c'est la parole de Dieu en somme. Voilà. C'est comme ça. Et je voudrais demander à d'autres frères. Jean, tu veux. Si. Vous avez la parole, s'il vous plaît. On a aussi le frère Benjamin, notre Benjamin, il est là aussi. Il peut aussi prendre la parole, bien sûr. Même une petite exhortation, frère Benjamin. Voilà. Oublie que tu es à la maison, on est là. Ah, tu es à l'assemblée, tu es à la maison. Frère Benjamin. Voilà, frère Benjamin, je voulais dire quelque chose concernant la guide. Donc ça m'a vraiment stimulé quand j'ai entendu le frère Jésus, quand il a donné la promesse du Père, l'Esprit Saint. Le motif principal de ce don, c'était pour nous guider dans toute la vérité. Et donc nous voyons que si on a des problèmes de guide, c'est ça en fait. Il faut. C'est Dieu, par le moyen du Saint-Esprit, qui veut nous guider. Parce qu'il guide toute l'Église. Même se servant des hommes, des ministères, mais c'est toujours Dieu qui est la guide. Et nous devons toujours avoir cette relation, cette onction. Donc, on peut dire onction, une onction qui nous pousse à faire quelque chose. Mais le don du Saint-Esprit, comme il est parlé dans Pierre 2, 38, c'est une onction à l'intérieur de la propre personne. Comme l'apôtre Paul dit, vous êtes le temple de Dieu. Cette union entre l'homme et Dieu qui n'est pas temporaire, mais c'est permanent. C'est quelque chose qui dure pour toujours. Amen. Amen. Nous nous confions tous à Dieu pour cela, parce que c'est lui qui est notre guide, qui nous fait voir les choses. Il est vrai que nous vivons un temps difficile, qui nous ont un peu, qui a un peu chamboulé toutes les choses. On ne peut plus avoir de contact physique, disons. Les personnes, on s'est un peu séparés, disons, dans le sens charnel. Mais, disons que l'autre facette de la médaille, c'est que nous pouvons tous nous voir, nous parler avec la technologie qu'on voit maintenant. Et on peut... Et ça, c'est avantageux. Parce que où qu'on se trouve, on peut quand même se parler. Jean-Baptiste disait, l'homme ne peut rien donner s'il n'a pas reçu d'en haut. C'est vrai que nous sommes tous dans le besoin de Dieu. Et on ne peut donner que ce qu'on a. Amen. C'était le frère Benjamin, non? Alléluia. On va parler aujourd'hui de cela, justement. C'est ça, un peu une introduction, c'est ça. On va parler justement de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et cette promesse, Dieu l'a reportée, reportée sur chacun d'entre nous. Donc il y a eu beaucoup de situations qui se sont produites. Et aujourd'hui, dans l'Église, malgré le fait qu'elle ait reçu le message du temps de la fin, l'Église reste encore toujours dans... elle est toujours ballottée, disons. Elle est, comment je peux dire, voilà, naturellement, aujourd'hui, l'unique qui devrait, comme on l'a entendu plusieurs fois, et comme encore il y a toujours cet esprit qui circule, c'est un esprit qui ne vient pas de Dieu, ça vient toujours de cette unique fontaine de l'ennemi. Il y en a qui disent toujours que c'est seulement une seule personne qu'il faut écouter. Voilà, c'était Moïse, seulement Moïse. Vous voyez ? Branham, il faut seulement écouter frère Branham. Frère Franck, il faut seulement écouter frère Franck. Mais en fait, dans la réalité, c'est pas comme ça. Ça n'est pas comme ça que Dieu veut que son Église vive. Donc, il doit y avoir vraiment une rencontre profonde et personnelle où tous s'amalgament, tous deviennent une, tous s'unissent et où tous trouvent la communion les uns avec les autres, là où le Seigneur peut travailler pleinement dans l'Église. Sinon, il y a une interruption. Vous voyez ? Il y a des choses qui c'est toujours de l'incrédulité. Il reste toujours cette incrédulité. Et c'est cette incrédulité qui nous sépare toujours de Dieu. C'est-à-dire le raisonnement, l'incrédulité, le fait de ne pas voir exactement comment Dieu voit les choses. Voilà. Voilà, c'est ça les empêchements, mais c'est ça aussi donc l'échelle, les escaliers à surmonter. C'est ça que l'Église a besoin. C'est de passer au-delà, au-dessus de cette échelle, au-dessus de ces marches. Il faut aller un peu au-dessus. Donc alors là, je crois vraiment que le Seigneur, à ce moment-là, viendra chercher son épouse. Je crois ça. Donc, le frère Franco demande de lire maintenant Genèse. Mais d'abord, nous allons remercier le Seigneur. Encore une fois, nous allons prier que Dieu puisse bénir sa parole. Puisse bénir chacun d'entre nous et nos cœurs. Nous allons tous chercher. Donc, comme on l'a écouté, la guide, on l'a entendu, puis c'est le Seigneur qui fait les choses, il est nécessaire que lui répande et révèle, ouvre le cœur, qu'il élargisse le cœur. Et on dit merci Seigneur parce que tu m'as parlé. Parce qu'on a tous besoin, tous les jours, je ne le dis pas pour le dire comme ça, mais c'est une vie vécue, c'est une nécessité. On a besoin de connaître sa volonté tous les jours. On a besoin de savoir si moi, je lui suis agréable ou pas. Nous tous. Que ce soit frère Franck, frère Branham, tous les frères, les prophètes, Ils avaient tous besoin de se sentir approuvés par Dieu, confirmés. Mon fils marche, va de l'avant. Voilà. C'est de cela dont nous avons besoin. Moi aussi, déjà, mais je pense que vous tous aussi. Gloire à Dieu. Amen. Glorieux Jésus, glorieux Jésus. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce tu nous as accordé les uns les autres de pouvoir venir de ta présence et de savoir vraiment dans notre cœur que tu es en train de nous écouter. Tu as déjà écouté, tu as déjà vu, tu connais toutes choses, tu connais les cœurs, les besoins. Et encore en ce moment, Seigneur, je te prie, Père Céleste, révèle-toi à nous. Révèle ta parole. Ouvre nos cœurs. Veille toi-même, parce que tu es celui qui veille et qui ne dort pas et qui ne sommeille pas. Tu veilles sur ta parole pour la porter à accomplissement dans chacun d'entre nous, dans nos cœurs, dans notre vie. Et fais en sorte que l'action, le chemin du chrétien, dans ce temps, dans ce dernier temps, si difficile et compliqué, en t'ayant toi à l'intérieur de nous, tout cela puisse être plus aisé. Sois notre guide, sois notre soutien, sois notre bénédiction. Merci Seigneur, viens encore prendre ton repos parmi nous, parle-nous encore ce matin. Et que ce soit toi à distribuer tes bénédictions selon les besoins des cœurs, selon les nécessités. Tu nous connais, Seigneur, tu nous connais. Grand et petit, vieux, jeune, tu nous connais tous. Et nous dépendons, comme nous l'avons entendu, nous dépendons de toi. Viens à nous et parle avec nous encore ce matin. Parce que nous te le demandons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais lire avec vous, on va commencer par Genèse 13. Vous connaissez l'histoire de Lot et d'Abraham. J'aimerais commencer comme ça, parce que j'avais à cœur, donc j'ai eu à cœur une pensée où je voulais l'exprimer dans ces derniers temps, ces derniers jours, parce qu'il s'agit de cela. On vit vraiment, avec ce Covid, avec tout ce qui se passe ici, on vit quelque chose de difficile. Mais néanmoins, Dieu demeure avec son Église, avec son peuple, avec les siens. Dieu n'a jamais changé, et il ne change pas, sa parole ne peut pas changer. Et l'appui qu'il nous a donné dès le commencement, il nous donnera jusqu'à la fin. Il complétera son œuvre. Ça, c'est le ainsi dit les Écritures. On peut en être certain. On se confie continuellement dans le Seigneur. Mais regardez, il y a des types dans les Écritures qui font ressortir des choses pour aujourd'hui. Et on peut voir que beaucoup de personnes, voilà, il va dire derrière une vision d'un certain homme ou la vision d'un autre homme. Voilà. Voilà pourquoi Dieu a mis dans les Écritures, dans Matthieu 25, il a mis les vierges folles et les vierges sages. Voilà pourquoi il y a toujours eu des paraboles, des comparaisons à cause de cela. Parce qu'il y en a qui vont dans une certaine direction qui finissent dans un certain lieu et une autre direction qui finissent dans un autre lieu. Nous, nous voulons aller dans la bonne direction où le Seigneur donne, où le Seigneur nous bénit. Nous le croyons tous. Lisons un peu ici dans Genèse, là, l'histoire de Lot et d'Abraham. Donc l'oncle et le neveu. Donc le fils d'un de deux frères, là. Et nous voyons comment le Seigneur avait guidé d'une certaine manière. On voit ce que Lot, on peut le lire ici au verset 5, au verset, donc Genèse 13, 5. Et Lot aussi, qui allait avec Abraham, avait du menu et du gros bétail et des tentes. Et le pays ne pouvait les porter pour qu'ils habitassent ensemble, car leur bien était grand. Et ils ne pouvaient habiter ensemble. Vous voyez comment Jacob a pris les brebis et il est parti. Vous voyez, le troupeau s'est agrandi. Et on voit ici qu'il y a eu un peu la même chose que là. Ici, c'est... Donc il y a eu alors querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et tout cela, Dieu connaît tout cela, Dieu sait tout ça, il sait, attention, Dieu voit, il sait. Il n'y a rien qui échappe aux yeux de Dieu, il voit tout, parce que c'est lui qui a l'ultime parole, c'est lui. Donc c'est important que nous sachions que toutes les choses coopèrent au bien de ceux qui aiment le Seigneur, comme il est écrit dans Romains 8. Donc cette chose est importante. Et ici, nous voyons comment Abraham réagit tranquillement, en tant que patriarche, en paix. Et dans la paix, il dit, nous ne voulons pas qu'il y ait des disputes. Laissons tomber, restons tranquilles. Un peu comme Paul, dans l'église de la church, qui avait laissé un moment, il a pris, comme il y avait des oppositions, beaucoup d'oppositions, beaucoup de discussions, il a pris donc le petit groupe que Dieu avait formé à travers lui, et il a porté dans un autre lieu pour être tranquille et pour ne pas avoir de guerre avec les autres. Nous voyons que cette chose, alors encore la même chose qui s'est fait ici, ils se sont séparés, on peut lire aussi au verset 10, et Lot leva ses yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était arrosée partout avant que l'Éternel détruisit Sodome et Gomorre, comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, quand tu viens de Tsoar. Donc on peut dire un petit jardin d'Éden. Donc avec beaucoup d'arbres, avec des rivières, etc., avec de l'eau, etc. Donc un pays, une vallée où on se réjouit. Et, donc je continue. Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et Lot partit vers l'Orient. Et ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays du Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Or les hommes de Sodome, voilà. Voilà, cet homme jusqu'à Sodome. Or les hommes de Sodome étaient méchants et grands pécheurs devant l'Éternel. Donc il est allé dans un endroit où on ne faisait pas la volonté de Dieu. Vraiment des gens pervers. Sodome et Gomorre aujourd'hui, là, ben aujourd'hui c'est beaucoup plus grave. Aujourd'hui c'est beaucoup plus fort, cette Sodome et Gomorre actuelle. En faisant, parce que là c'était seulement Sodome et Gomorre, maintenant c'est mondial, Sodome et Gomorre maintenant. Et c'est très répandu. Comment on peut vivre, vous voyez un peu le parallèle. Mais, donc nous-mêmes qui vivons dans ce monde, comme dit l'Écriture, mais on n'est pas de ce monde, mais il faut vivre dans ce monde, vous voyez. Mais voilà, il y a des caractères, il y a des tendances. Et cette tendance, c'est cette tendance qui devient difficile, même pour un enfant de Dieu, quand on se laisse aller un peu envahir et traîner. Là où il ne voudrait pas aller, mais il va quand même. Faites bien attention. C'est ça la chose importante. Dans Genèse 19, comme Frère Branham disait, donc il est devenu un homme important, là, parce que c'est un sage. Donc l'homme est un homme, disons, sage, d'intelligence, disons, de valeur, on peut dire, comment je peux dire. On peut dire en gros, comme un chrétien, comme Abraham, il faisait des sacrifices, donc c'est un homme. Et les gens ont besoin de ces personnes-là, qui sont un peu sages, un peu intelligents, un peu droit de cœur, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens ont besoin de ce genre de personnes. Et c'est comme ça qu'il est devenu un peu le syndicat ou bien le juge, là. On peut lire ça, par exemple, dans Genèse 19, c'est écrit. Quand les deux hommes sont descendus vers Sodome et Gomorre pour essayer de sauver Lot, selon la prière d'Abraham, donc quand Jésus-Christ est venu dans sa théophanie sous les chaînes de Mamré, donc Genèse 19, au verset 9, il est écrit, et ils dirent, retire-toi, et ils dirent, cet individu est venu pour séjourner ici et il vient faire le juge. Il vient faire le juge. Faites attention, si vous êtes ni si vous n'êtes ni poisson, ni viande, vous n'êtes pas intégré. Et vous n'êtes pas... Ça veut dire que vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas parmi eux. Vous ne savez pas ce que vous êtes. Et l'autre, il est un peu comme ça. Donc moi, je dis ça pour commencer, pour parler de l'autre, qu'est-ce qu'est Abraham. Donc la promesse demeure pour l'éternité, parce que le Saint-Esprit est là pour l'éternité. Dieu ne va plus l'enlever, Dieu ne va pas l'enlever. Si un nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, il n'y a pas moyen de l'enlever. Faites bien attention. Faites bien attention. Voilà. Donc dans la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est une promesse pour lui, pour tous ses enfants, et pour nous tous qui avons cru dans la promesse que Dieu a faite à Abraham, alléluia, et qui est notre promesse. C'est notre propre promesse. Prenons 2 Pierre. 2 Pierre. Quand on est un peu comme ça, alors notre cœur est tourmenté et on n'a plus de direction. On a parlé de cela ce matin. Ils n'ont plus de guide. On n'a plus de guide juste. 2 Pierre. 2:4. Un petit enseignement. Afin que ça résonne au cœur. Et qu'on puisse être distingué, qu'on puisse être séparé. Parce qu'il y a différence entre ceux qui suivent Abraham et ceux qui suivent Lot. Les vierges sages, les vierges folles. Lot fait partie de la grande tribulation des vierges folles. Vous comprenez cela? Donc le frère Branham en a parlé beaucoup, le frère Franck aussi. La Bible est là et on la lit. 2 Pierre 2:4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les ayant précipités dans l'abîme, les a livrés pour être gardés dans des chaînes d'obscurité pour le jugement, et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais a préservé Noé, lui, huitième, prédicateur de justice. Attention. Noé, lui, huitième, prédicateur de justice, faisant venir le déluge sur un monde d'impies. Et si, réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, il les a condamnés pour une totale subversion, les établissant pour être un exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété. Et s'il a délivré un juste Lot, accablé par la conduite débauchée de ces hommes pervers, car ce juste, qui habitait parmi eux, les voyant et les entendant, tourmentait de jour en jour son âme juste à cause de leurs actions iniques. Verset 9, 2 Pierre 2:9, le Seigneur s'est délivré de la tentation des hommes pieux et réservé les injustes pour le jour du jugement, pour être punis. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'occupe pas du Covid ou bien des choses que le diable fait. Je me tourmente l'âme, vous comprenez? C'est la même chose. Je suis en train de me tourmenter l'âme et je ne résous rien, vous comprenez? Vous pouvez dire amen, vous pouvez l'admettre ça. Et on ne résout rien. On ne peut rien faire parce que ça dépend des choix des personnes. Vous comprenez? Aujourd'hui, on se tourmente l'âme. Il y a ça dans le virus, il y a ça dans le vaccin, il y a ça. Et ceci, et cela, et la politique a dit cela, et l'antichrist arrive, etc., etc. Beaucoup de tourments d'âme, mais ils ne résolvent rien du tout. C'est terrible. Donc, c'est comme ce sont des lots. Ça m'a fait passer à ça directement. Ce sont des lots. Voilà pourquoi, ce matin, je voudrais dire ouvertement, comment enseignement à l'Église, afin que cette chose puisse rester. Nous sommes fils d'Abraham. Point final. Alléluia. C'est une chose différente, totalement différente. Parce que Lot, il pouvait très bien en sortir, mais il n'a pas fait. Il ne pouvait pas le faire. Parce que son cœur était incliné dans leur direction à eux, comme ça, dans cette direction-là. Comprenez bien. C'est-à-dire, il n'y a personne qui condamne personne. Mais il faut s'occuper des affaires de notre Père. Qui est notre Père? Selon la foi d'Abraham. Juste, c'est selon la promesse. C'est vrai. En Christ Jésus, nous avons reçu cette promesse pour l'éternité. Alléluia. Vous y êtes? Regardez maintenant. Ça, c'est important de voir cela. Parce que Lot fait partie des vierges folles de la grande tribulation. Il sera sauvé comme à travers le feu. Comme à travers le feu. C'est écrit clairement. 1 Corinthiens 3. On peut le lire maintenant. 1 Corinthiens 3. Et en effet, il a été sauvé comme à travers le feu. Parce que l'ange lui avait dit, va, fuis, je ne peux rien faire tant que tu es encore là. Allez, sauve-toi, pars. Donc les vierges folles seront sauvées, mais comme à travers le feu, juste. 1 Corinthiens 3. Ça, c'est l'écriture, mes amis. Que Dieu bénisse nos cœurs et qu'il nous donne la force pour servir et honorer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et qu'aujourd'hui, on le voit. Amen, alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons ici 1 Corinthiens 3 à partir du verset 11. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. Or, si quelqu'un édifie sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu'il est révélé en feu. Vous voyez, le feu l'éprouvera, c'est le feu qui éprouvera. Alléluia. Ce feu, ouais. Si, verset 14, si l'ouvrage de quelqu'un qu'il aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense. Donc si ce feu, c'est le baptême du Saint-Esprit, demeure dans le cœur pour guider la personne, pour glorifier le nom de Jésus-Christ, alléluia. Autrement, ce sera l'autre feu. Vous avez compris cela? Vous avez compris? C'est scriptural. Ça, c'est l'écriture. Alléluia. Voilà pourquoi chaque chose est mise à sa place. Chaque chose est mise à sa place. Nous avons eu un enseignement profond afin que la parole de Dieu soit placée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et chaque chose est vraiment évidente afin que le Saint-Esprit, reçu par toi et moi, le capte, le saisisse et le mettre en pratique. Voilà ce que Dieu veut faire et que Dieu a fait. Verset 14, si l'œuvre de quelqu'un qui l'aura édifié, si l'ouvrage de quelqu'un qui l'aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense. On a reçu l'enseignement du temps, du message du temps de la fin, c'est cela, c'est l'écriture qui nous exhorte dans cette direction-là. Il faut être ferme, conscient que Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Retournons à Genèse 13. Et on va voir l'autre personnalité, l'autre homme à qui Dieu s'est confié pleinement. La même chose dans Matthieu 17. Voici mon fils bien-aimé en qui, donc sur le mont de la transfiguration, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, de ma confiance en italien. Parce que c'est à partir de là que nous avons reçu grâce sur grâce, révélation sur révélation, bénédiction sur bénédiction. Et maintenant, nous sommes dans un état d'attente où nous attendons du ciel que le Seigneur vienne prendre son épouse. Et pour confirmer encore sa précieuse parole. Alléluia. Vous y êtes? Ça, c'est l'écriture. Laissons le reste. Que les autres s'occupent des autres choses par-ci par-là. Mais toi, suis-moi, Jésus a dit. Toi, suis-moi. C'est ce que Jésus a dit. Toi, suis-moi. Voilà qu'Abraham devait suivre le Seigneur. Et si on lit, verset 14. Genèse 13, 14. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, vous y êtes, après que Lot se fût séparé de lui, après que l'incrédulité soit sortie d'un homme, après que l'incrédulité soit sortie d'un fils, d'une fille de Dieu, que Dieu a élu avant la fondation du monde. Mais Dieu ne peut rien faire tant qu'il y a encore de l'incrédulité, tant qu'il y a encore un mélange, tant qu'il y a encore des concessions, la personne n'est pas encore libérée totalement. Vous voyez? Alors après, il peut se passer ça. Mais Dieu a fait en sorte que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il a permis cette séparation-là. L'incrédulité est partie. Et une fois que l'incrédulité est partie, lève les yeux, Abraham. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, verset 14, lève tes yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord et vers le midi et vers l'orient et vers l'occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, et à ta semence pour toujours. Et je ferai que ta semence sera comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta semence aussi sera comptée. Lève-toi et promène-toi dans le pays, en long et en large. Car je te le donnerai. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est cet héritage? D'après vous, est-ce que ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit? Selon vous, est-ce que ce n'est pas ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous, d'accomplir, apporter à l'accomplissement à son œuvre? Ça, c'est la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et toujours dans la Genèse, un peu plus loin au chapitre 15, juste un verset ici. Donc je crois que c'est... Donc verset 3. Donc au verset 3 quand il dit, et Abraham dit, voici tu ne m'as pas donné de postérité, et voici celui qui est né dans ma maison et mon héritier. Et voici la parole de l'Éternel vers lui disant, celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, lui sera ton héritier. Et il le fit sortir dehors et dit, regarde vers les cieux et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, ainsi sera ta semence. Et là est sortie l'église. Donc le verset 5, et il le fit sortir dehors et dit, regarde vers les cieux. Et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, ah ben, ainsi sera ta semence. Et il crut l'Éternel. Et il lui compta cela à justice. Donc, il y avait les autres, il y avait la circoncision comme signe. Les Ismaélites aussi ont reçu ceci, donc les descendants d'Abraham. Donc la circoncision, c'est un signe. On va lire d'autres passages là-dessus. Donc nous devons faire partie de cette église épouse remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Moi je crois cela. Voilà, il y a toujours eu des séparations comme ça, il y a eu des rois différents, vous savez que Juda et Israël. Donc on voit comment Dieu accomplit son œuvre. Voilà pourquoi est venu un jour de Pentecôte. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu veut cela aussi pour nous. Je ne sais pas comment dire, c'est un désir qui est profond à l'intérieur de nous. Une église conduite par le Saint-Esprit, où l'unique roi est Jésus-Christ, où l'unique Seigneur est notre Dieu, c'est l'Éternel, où l'unique guide est le Saint-Esprit. Ça, c'est notre territoire à nous. Ça, c'est notre héritage. Va là et va là, de là à là. Regardez dans la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, et vois combien j'ai fait pour toi, comment j'ai souffert pour toi, comment je te guide dans les justes voies. Amen. Vous y êtes? C'est ça notre héritage à nous. Qui peut croire ça? Amen. Et à l'intérieur de mes paroles, dit le Seigneur, dans ces paroles, il y a l'esprit et la vie. Comme on l'a dit il y a quelques dimanches. La lettre, c'est du réma en grec, c'est de la lettre. Mais à l'intérieur, il y a le logos, l'Esprit Saint. Il y a l'esprit à l'intérieur. Et c'est l'esprit qui vivifie. La chair, voilà, ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Mais si l'esprit est là, et si l'esprit n'est pas là, il n'y a que de la chair, que de l'homme religieux, un être humain religieux, qui est toujours hybride. Dieu l'aime, mais lui ou elle n'est pas encore apte. Dieu ne peut pas réverser sur lui la Pentecôte. Donc c'est nécessaire qu'il la déverse, afin que l'unité de l'esprit, comme on l'a entendu, demeure dans l'Église. Là où tous ceux que Dieu a choisis puissent continuer à édifier son peuple jusqu'à son retour. Ça, c'est l'Écriture. Et on ne peut pas l'enlever. Vous voyez? Ici, il est encore écrit au verset 9. Donc, Genèse 17, 9. Regardez dans Genèse 17, 9. Et Dieu dit à Abraham, « Et toi, tu garderas mon alliance, toi et ta semence après toi, en leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta semence après toi, que tout mâle d'entre vous soit circoncis. Et vous circoncirez la chair de votre prépuce. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » Amen. Donc il y a une différence. Il y a une différence. L'Église de Jésus-Christ, il faut le dire. Il faut être... C'est une grâce que Dieu nous a faite. Donc il faut le dire. La différence entre l'Église, épouse, baptisée du Saint-Esprit, et l'Église qui encore est en train d'entrer, qui veut, qui désire entrer, mais à cause de l'incrédulité, il reste toujours dehors, en dehors, à l'extérieur, comme Lot. Ces gens qui se tourmentent l'âme, qui se tourmentent le cœur, mais qui n'ont jamais du repos, ils n'ont jamais de tranquillité. Ils n'hériteront jamais de la tranquillité. Ça, c'est mon repos, dit le Seigneur. Entrez dans mon repos, alléluia. De façon que tout ce qui peut se passer, à gauche, à droite, toi, tu n'es pas touché. Tu n'as rien à faire avec ça, tu n'es pas touché. Au commencement de la pandémie, psaume 91. Ensuite, il y a autre chose qui vient. Mais Dieu ne peut pas changer. Dieu a pris en main ta vie et il continue de la prendre en main, ta vie, jusqu'à la fin. Bien sûr, il y a les psaumes, bien sûr, mais il faut que le Saint-Esprit demeure en nous et c'est tout. Voilà, ça c'est la vérité. C'est ça. Parce que lui, il ne fait que me garder, il ne fait que me guider. Il ne me fait que m'éloigner de la méchanceté, des pièges du diable, etc. Et même si involontairement on tombe dedans, dans un piège, mais le Seigneur nous fait sortir victorieux à chaque fois. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est vrai, vous voyez? Donc, nous voyons comment Dieu traite encore aujourd'hui. Et voilà pourquoi, jour de Pentecôte, un jour vraiment glorieux, Dieu nous aide à nous éloigner de cette incrédulité. Voilà pourquoi nous avons besoin, toujours plus, d'être dépendants de Dieu. Dépendants de Dieu. Alléluia. Et si on est dépendant de Dieu, on ne peut pas haïr notre frère, on ne peut pas haïr le ministère à Krefeld que Dieu nous a donné. Et qu'on lit ses écrits du frère Franck tous les jeudis. Dieu, on ne peut pas les haïr parce que Dieu les a mis là. Je ne peux pas être comme Osborne, comment dire, Warhol Roberts, qui, malgré tout, ils ont vu l'action du Saint-Esprit au milieu, parmi eux, à travers le ministère du frère Branham. Ils ont vu comment Dieu a agi. Dieu a remis sur le champ du livre le don de guérison, avec puissance, avec autorité. Mais ils se sont seulement attachés seulement à cela, mais ils n'ont pas vu l'importance de la parole qui sortait de la bouche du frère Branham. N'est-ce pas? Ils n'ont pas vu l'enseignement. Et s'il n'y a pas ces enseignements, ce mystère de docteur que nous avons à travers Frère Franck, cette Église aujourd'hui aurait des difficultés à s'insérer pleinement dans le plan de Dieu et recevoir les instructions correctes. Juste, vous comprenez? Vous y êtes? Alléluia. Regardez quelle bénédiction Dieu nous a donnée, quelle grâce le Seigneur nous a faite. Amen. Moi, je crois cela. Vous voyez? Donc, ces passages de l'Écriture nous font voir comment Dieu a fait un pacte définitif, irréversible, disons. Encore d'autres passages. Colossiens 2, 11. Aujourd'hui, on se souvient qu'il y a une Pentecôte. Colossiens 2, 11. Pas une Pentecôte dénominationnelle, le mouvement pentecôtiste qui a suivi la sanctification, qui a fait suite à la sanctification, la justification avec Luther et Wesley, non, mais l'expérience de la Pentecôte. Donc, c'est-à-dire un cœur changé, un cœur complètement régénéré en Christ, là où chaque chose est soumise à la parole de Dieu. L'être entier est soumis à la parole de Dieu. Amen. Vous ne le désirez pas? Moi, je le désire de tout mon cœur. Amen. Toujours plus. Toujours plus. Un cœur soumis entièrement à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Alors là, c'est fini. C'est fini. Mes préoccupations sont finies. Mes inquiétudes sont finies. Les luttes, les disputes, les dérangements, les raisonnements intellectuels. C'est fini. Beaucoup de choses qui viennent et qui enlèvent, qui ôtent la communion fraternelle. Et qui ôtent surtout la communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu. N'est-ce pas? Et ici, nous voyons dans Colossiens 2, 11. Et ensuite, on va lire Galates après. Colossiens 2, 11. Alléluia. On va commencer au 9. Car en lui, au verset 9, car en lui habite toute la plénitude de la déité corporellement, le Seigneur Jésus-Christ. Et vous êtes accomplis en lui. Ou on peut dire plein, ou rempli. Vous comprenez cela? Et vous êtes accomplis en lui, rempli de lui, qui est le chef, vous comprenez? Le chef. Aussi écrit dans Éphésiens. Le chef. Ou la tête. De toute principauté et autorité. Donc, que peut faire le diable? Qu'est-ce qu'il peut faire? Quelles complications peut nous donner? Moi, je suis libre d'adorer le Seigneur. Je suis libre de marcher avec le Christ. Je suis libre. Je n'ai pas des empêchements. Il est écrit ici, je continue. Vous êtes accompli en lui qui est le chef de toute principauté et autorité, en qui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite de main dans le dépouillement du corps de la chair par la circoncision du Christ. Amen. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit dans notre vie. Où Dieu par la parole, oint par l'Esprit de Dieu, à travers les messagers, à travers comment Dieu l'a désiré, l'a voulu pour toi et pour moi. Dieu nous a bénis. Il a fait une circoncision qui n'a pas été faite de main d'homme. Pas nécessaire que ce soit fait de main d'homme. Voilà pourquoi le baptême du Saint-Esprit doit venir, doit descendre. Il doit être vraiment une bénédiction. Il doit être vraiment une action. Et ça doit être une vie vécue, une vie qui se vit. Amen. Vous y croyez? Amen. Gloire à Dieu. Une vie vécue. Et ça change tout, même le style de vie, ça change tout, moi je crois. Là, il n'y a pas de main d'homme, pas de main d'homme. Il y a seulement Dieu et toi, toi et Dieu. On est là, à ce point-là, personnellement. Encore d'autres passages des Écritures, de Romains 4. Romains 4. Romains 4. 11. Très important pour ce pacte que Dieu a fait définitivement avec l'Église, avec toi et moi, individuellement. Romains 4, 11. Faites attention ici. Voilà pourquoi chaque parole est précise. Chaque parole ouinte par l'Esprit de Dieu porte à l'éclaircissement. Romains 4, 11. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il avait dans l'incirconcision. Vous voyez? Donc ça signifie que pendant que vous étiez pécheur, pendant que vous étiez encore pleinement dans le monde, Dieu a fait grâce de telle manière que tu pouvais recevoir la circoncision, son pacte. Donc il vous a appelé alors que vous étiez dans le monde. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes. Oh, moi je dois devenir meilleur avant de venir à Christ, je suis dans le monde, etc. Mais ils ne se rendent pas compte que Dieu les appelle. Et ensuite, il les bénit. Ils doivent venir. Et ensuite, ils vont recevoir la circoncision. Voilà pourquoi Acte, il est écrit, 2, 38, il est écrit. Quand il est écrit que chacun de vous soit baptisé, se repente pour la rémission de ses péchés, et qu'il soit baptisé au nom de Jésus-Christ, et vous recevrez le don de l'Esprit-Saint. Juste, tout. Il est écrit ici parfaitement, c'est glorieux. Quand on lit l'Écriture, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, le sceau, le signe de la circoncision, c'est un sceau. L'Esprit-Saint, c'est un signe. Il y a un sceau. Donc, il est reçu, verset 11, et il a reçu le signe de la circoncision, comme, donc, Romains 4, 11, et il a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il avait reçu dans l'incirconcision, pour qu'il fût le père de tous ceux qui croient, étant dans l'incirconcision, pour que la justice leur fût aussi comptée. Et qu'il fut père de circoncision. Juste? Amen. Alléluia. Vous voyez la différence? Vous voyez un peu? Voilà pourquoi il doit y avoir vraiment une différence entre les vierges folles et les vierges sages, entre les fils d'Abraham et les fils de Lot, n'est-ce pas? Alléluia. Que Dieu nous aide et nous bénisse, et nous fortifie de la foi, nous fasse grâce. On a besoin de croire que Dieu agit au milieu de nous. On a besoin de savoir qu'il est venu pour condamner les œuvres du diable et pour changer les cœurs. Alléluia. N'est-ce pas? Changer entièrement les cœurs. Là où les tourments de l'âme doivent finir. Il n'y a plus de tourments de l'âme. Il y a simplement la communion en Christ, les uns avec les autres, dans l'amour fraternel, l'amour irréversible, direct, plein, où il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Il y a quelqu'un qui va se lever du mauvais pied un jour, et puis, voilà. Et puis, il y a une expression pour dire se lève du mauvais pied, bon. Et voilà, il commence à avoir un caractère rebelle, bon, un mauvais caractère. Mais il ne devrait pas y avoir une ombre de variation en Christ Jésus. En Christ Jésus, il n'y a pas d'ombre de variation. Donc il y a des passages d'Écriture qui sont très précis. Je continue ici. au verset 13, car ce n'est pas par la loi que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa semence, mais par la justice de la foi. Voilà la différence. Il n'a pas raisonné, il a cru. Vous voyez la différence entre raisonner, discuter et croire. Moi, je peux croire avec l'intelligence, avec le raisonnement, avec le cerveau, mais ça n'a rien à voir avec la foi authentique. Absolument rien. Encore un autre passage d'écriture. Dans Romains toujours, 2, 29. Romains 2, 29. Romains 2, 29. Mais celui-là est juif, qu'il est au dedans. Et la circoncision est du cœur, en esprit, non pas dans la lettre. Et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Voilà pourquoi il y a eu ce détachement. À un certain moment, Abraham dit, tu veux aller à droite, va à droite, à gauche. Où tu veux toi, choisis-toi. Vous pensez que dans l'esprit d'Abraham, est-ce que vous pensez que en ayant vu Sodome et Gomorrhe, est-ce que vous pensez qu'il se serait arrêté là? Jamais de la vie. Il a évité tout Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi il a laissé le choix. Dieu laisse le choix aux hommes. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux suivre mes traces? Tu veux suivre la parole de Dieu? Ou bien tu préfères suivre tes instincts, tes propres idées, ta proposition que tu t'es fixé dans ta tête par imitation? Parce que c'est vrai que des fois il faut perdre un peu. Parfois il faut perdre tout son prestige pour recevoir la promesse de Dieu. La promesse que Dieu a faite à Abraham. Des fois il faut perdre du prestige. Il faut être rien, nul, zéro, hein, zéro. Et à ce point-là, alors, vous êtes quelqu'un devant Dieu. Alors, c'est seulement là que vous serez quelqu'un devant Dieu. Devant les hommes, vous êtes des zéros, mais devant Dieu, on est quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on désire, nous? Ça, c'est le choix. Qu'est-ce qu'on veut choisir? Vous voyez? Et aussi 3.15. Romains 3.15. Attendez. Pardon, c'est 3.28. On va commencer par 3.28. Car nous concluons que l'homme est justifié par la foi sans œuvre de loi. Vous vous souvenez, nous voulons un roi. Vous vous souvenez de ça? Mais Dieu doit libérer son peuple. Parce que beaucoup sont encore enchaînés par cet esprit. Ils sont vraiment enchaînés. Parce que quand ils disent « je veux un roi », c'est exactement un esprit catholique qui est encore là sur la personne. Vous y croyez ça? C'est grave, hein, ce que je dis, mais c'est la vérité. Ou bien c'est juste. Nous, on n'a pas appuyé ça à Rome. Et tous veulent un pape. Vous comprenez ce que je dis? Moi, je veux Jésus-Christ. Toi, tu veux quoi? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que c'est important ça. C'est important. Voilà pourquoi l'homme est un instrument entre les mains de Dieu. Et il doit rester tel quel pour l'édification, pour la bénédiction. Pour propager le conseil de Dieu dans toute sa plénitude. Mais c'est un instrument dans la main de Dieu. Alléluia. Donc, nous devons nous attacher à Christ. Il faut s'attacher à la parole de Dieu. Vous voyez? C'est ainsi que Dieu agit. C'est comme ça que Dieu veut. Moi, je dois honorer et respecter les ministères. Je dois respecter les dons que Dieu donne. Oui, je dois croire, je dois accepter comme venant de la part de Dieu entièrement. Mais à travers ces hommes, il y a Dieu. Parce que le baptême de cet esprit, ça ne vient pas à travers un homme, ça vient à travers Dieu. Même si Dieu utilise des hommes. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, quand Philippe évangélisait, toute la Samarie l'évangélisait, avec des signes et des miracles, mais il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors les apôtres sont descendus, et ils sont descendus, les apôtres, et ils leur ont imposé les mains. Mais on voit, même un autre exemple, je crois qu'on en a parlé dimanche passé, il y a une Pentecôte, il y a eu des langues de feu qui sont descendues et se sont déposées sur les 120. Mais aujourd'hui, ces langues de feu, comment est-ce qu'elles sont aujourd'hui, ces langues de feu? Corneille, quand il a été baptisé du Saint-Esprit, que Dieu l'avait déjà baptisé du Saint-Esprit, quand il a entendu la parole, son cœur est enflammé encore plus. Il a encore parlé en langue. Mais ce n'est pas des langues de feu qui descendent comme ça. Mais il a été baptisé du Saint-Esprit. Mais il y avait le feu du Saint-Esprit qui était là. Alléluia. C'est vrai. Amen. Ça, c'est l'Écriture. Ça, c'est les Écritures. Donc, nous voyons comment c'est important que Dieu mette nos cœurs, notre esprit, tout bien placé dans la parole de Dieu. On instruit l'enseignement via les Écritures. Ointe par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc je continue ici dans Romains 3:30. On va commencer par 29. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des nations? Certes, aussi des nations. Puisque un seul Dieu, c'est un seul Dieu qui justifiera la circoncision sur le principe de la foi et l'incirconcision par la foi. Annulons-nous donc la loi par la foi? Qu'ainsi n'advienne. Au contraire, nous établissons la loi. Aucun trait de la loi ne sera effacé. Parce que le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Aucun trait de la loi ne sera effacé, annulé. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, dans ce jour de Pentecôte, donc je crois que c'est comme ça que ça nous donne au sein de l'Église, parce que nous voyons encore beaucoup de divisions de l'Église. On les voit, elles sont évidentes, elles sont visibles. Il y a beaucoup de pensées, tout le monde croit qu'ils sont bien là, qu'ils se sentent bien dans leur position, parce qu'ils se sentent bien dans leur position, tout va bien pour eux, ils sont bien. Mais si on compare leur position avec les Écritures, là, on voit qu'ils boitent par-ci, par-là. Mais c'est Dieu qui révèle, c'est Dieu qui ouvre les cœurs, c'est Dieu qui doit le faire. Alléluia. Vous voyez? Galates 5. On a parlé aussi des Galates dimanche passé. Galates 5. Galates 5. La foi qui agit avec l'amour. Voilà ce dont nous avons besoin. Voilà pourquoi Jean 14, 12. Aujourd'hui, il y a une Pentecôte, une vraie Pentecôte. La vraie existe, elle est là. Jean 14, ils feront des miracles, des signes, des œuvres plus grandes de ce que j'ai faites. Mais il n'y a pas que ça. La chose principale, c'est le repos du cœur. La chose principale, c'est le cœur changé. Où règne pleinement l'Esprit de Dieu. Ça, c'est important. Il y a aussi Joël 2, 28. Lisons aussi Joël dans l'Ancien Testament. Joël 2:28. Joël 2:28. Vous connaissez tous sur l'arbre de la restauration. Dieu nous l'a donné. Gloire à Dieu. Quelque chose de merveilleux. On le reçoit dans notre cœur. On sent que chaque chose a été remise à sa place. Et on peut vivre pleinement comme un fils et une fille de Dieu. On peut vivre de la parole de Dieu et de la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Donc Joël 2:28. Joël 2:28. Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards songeront des songes. Vos jeunes hommes verront des visions. Et aussi sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et verset 30. Et je montrerai des signes, etc. Tout ça a été fait. Alléluia. Amen. C'est vrai. On peut dire Amen. Amen. Tout cela, ça a été fait. Gloire à Dieu. Donc, il y a une réalisation. Il y a une vie. Il y a une expérience. Une expérience que Dieu nous aide à vivre pleinement. Dans toute sa forme, dans toute sa plénitude. Tranquillement. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste cela. La différence entre un chrétien, comme on l'a lu dans les lettres du frère Franck, quand le naturel se rencontre avec le spirituel, il y a des étincelles. Pourquoi ? Parce qu'il y a des étincelles, parce que c'est comme ça, parce que le diable réagit. Le diable réagit. Toi, tu veux être tranquille, mais le diable ne veut pas être tranquille. Le diable veut te faire sortir de tes gonds, veut te faire sortir de ta position que tu es en Christ. Il fera de tout pour le faire. Il fera de tout pour démontrer que ce que tu sens de ton cœur, tu ne l'as pas, ou ce que tu prétends voir de Dieu, tu ne l'as pas. Vous voyez, il fera de tout pour faire cela. Mais il ne pourra pas y arriver. Parce que Christ règne à l'intérieur. Juste. Le règne de Dieu n'est pas loin, mais il est à l'intérieur de vous. Alléluia. À l'intérieur, il n'y réussira pas. Les élus ne pourront jamais être séduits. Dieu a donné la victoire, comme il a donné à Abraham. Il a donné aussi à toi et à moi. Il a donné à nous. Alléluia. Je répandrai mon esprit. Ésaïe 25, 8. Des merveilleux passages d'Écriture, amen. Là où nous pouvons vraiment nous comparer et dire c'est vrai. On peut s'identifier à ces passages. Ésaïe 28. 25, pardon. Ésaïe 25, 8. C'est fondamental parce que c'est Dieu qui nous parle et qui nous dirige d'une certaine direction. Une merveilleuse direction. Amen. Dans le repos. Et le Saint-Esprit, c'est le repos. Chapitre. Regardez un peu de l'Afrique à l'Occident, partout. Combien de révélations? Regardez les révélations qui ne sont pas fondées sur les Écritures. Vous y êtes? Le frère Franck doit lutter continuellement pour nous rapporter dans la juste position. Voilà, le verset, c'était donc le 25:8. Donc, l'Éternel essuiera les larmes de dessus tout visage et l'ôtera l'opprobre de son peuple de dessus toute la terre, car l'Éternel a parlé. Donc, ils se sont achoppés. Donc, comme avec Lot, il y en a qui se sont achoppés à la justice. ils n'ont pas vu la vraie volonté de Dieu et comment Dieu traite avec l'homme personnellement. Ils n'ont pas vu cela. Encore important. Les tables sont pleines de vomissements. Ici, on est à Ésaïe 28, 7. On peut dire Ésaïe maintenant, Ésaïe 28, 8. S'il n'y a pas une doctrine établie, il est écrit, car toutes les tables sont pleines de sales vomissements. Alors là, on n'a pas de, si on n'a pas la doctrine, on n'est pas la vraie église de Jésus-Christ, parce que la vraie doctrine basée sur les apôtres et les prophètes. Ésaïe 28, 8. Car toutes les tables sont pleines de sales vomissements, de sorte qu'il n'y a plus de place. À qui enseignera-t-il de la connaissance et à qui fera-t-il comprendre ce qui est annoncé? À ceux qui sont sevrés du lait, arrachés aux mamelles. Car commandement sur commandement, commandement sur commandement, ligne sur ligne, ligne sur ligne, ici un peu, là un peu, car par des lèvres bégayantes et par une langue étrangère, il parlera. Et à ce peuple, il parlera à ce peuple auquel il avait dit, c'est ici le repos, faites reposer celui qui est las, et c'est ici ce qui rafraîchit. Mais ils n'ont pas voulu entendre. Et la parole de l'Éternel leur a été commandement sur commandement, commandement sur commandement, ligne sur ligne, ligne sur ligne. Il n'y a rien de personnel ici. Hein. Vous voyez? Il n'y a rien de personnel. C'est une action directe. Mais ici, c'est pas. Ici, ce sont des gens qui n'ont pas de relation avec Dieu. Ils veulent des commandements, ils veulent des commandements. Et ça sera toujours comme ça. Enseignement sur enseignement, commandement sur commandement, ligne sur ligne, ici un peu, là un peu, afin qu'il marche et qu'il tombe en arrière et qu'il soit brisé et enlacé et pris. Mais aujourd'hui, c'est pas de cause, c'est le repos, il y a une expérience. Vous y croyez? Une expérience nouvelle. Qu'une expérience nouvelle puisse venir et se manifester dans le peuple de Dieu, de façon qu'il puisse unir vraiment les cœurs. Alléluia. C'est vrai. Et les unir, pas sous la guide d'un homme particulier, un homme qui soit Branham ou... Même des frères Franck et d'autres qui ont été comme des guides, mais il faut qu'on soit unis, l'épouse doit être unie à Christ. Parce que les enseignements ont été faits, Dieu les a donnés, pour arriver à cette conclusion-là, d'être unis à Christ. La conclusion dans ce sens, d'avoir d'abord le repos dont nous avons besoin, et où il n'y a plus des effets collatéraux. Vous savez ce que c'est, des effets collatéraux? Vous avez combien d'effets collatéraux il y a en ce moment? Combien de choses que nous entendons? Beaucoup de guerres, beaucoup d'effets collatéraux. Mais la parole de Dieu est comme ça. Et il suffit que Dieu remplisse une personne du Saint-Esprit, que tout le monde va aller contre lui, ça c'est sûr. Ça, c'est ainsi des Écritures, on l'a entendu beaucoup de fois. On l'a vu confirmer combien de fois, que ce soit du frère Branham, du frère Franck. Tous vont contre la personne, parce qu'ils ne l'acceptent pas. Ils ne l'acceptent pas. Pensez une église baptisée de l'Esprit-Saint, unie ensemble. Regardez l'opposition du diable qui viendra. Et combien vont être victorieux, combien vont rester avec l'étendard, disant « Alléluia, ça, c'est la vérité. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Seulement les vierges sages. Juste, les autres ne vont pas rester. Ils ne peuvent pas rester. Alléluia. » Donc ici, il y a beaucoup à dire, il y aurait beaucoup à dire, beaucoup à dire. Donc c'est important. Dieu parle. Et au verset 11, Ésaïe 28, 11. Car par des lèvres bégayantes et par une langue étrangère, il parlera à ce peuple. C'est le cœur rempli qui parle de ce dont il est rempli. La bouche parle de l'abondance du cœur. il parlera à ce peuple auquel il avait dit, donc par des lèvres bégayantes et par une langue étrangère. Lisons encore un autre passage très précieux de Jean 14. On ne peut pas passer à côté. Et ensuite, on va terminer avec Actes. Alors, lisons dans Jean. Lisons dans Jean. Vous connaissez la prédication, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit a été donné, à quoi ça sert le Saint-Esprit? À quoi ça sert? À quoi il sert? Le Seigneur lui-même a introduit ce sujet. C'est le Seigneur qui l'a introduit. Donc le frère Carmelo a parlé, le frère Benjamin a parlé, c'était introduit. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Alléluia. Est-ce que vous pouvez imaginer une personne, donc on parle de la sagesse, une personne qui est riche, qui a beaucoup d'argent, et qui ne sait pas quoi faire, qui gouverne mal, qui se gouverne mal, qui n'a pas la tête, il n'a pas le cerveau, il n'a pas la tête, il n'a pas de... À quoi ça sert? Voilà pourquoi Dieu devait intervenir lui directement. En Luc 2, il s'agit de cela. Il y avait les femmes, Agar, et puis aussi Agar et Sarah, et puis Marie, l'Église du Dieu vivant. Il s'agit de cela. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, Jean 14. Alors là, on ne va pas tarder. Jean 14. Je dis encore ceci tranquillement, avec la certitude de mon cœur. Comment un homme qui a reçu le Saint-Esprit rester oisif, dans un français on dit oisif, c'est-à-dire sans travail, sans rien faire, sans être un témoin de Christ, sans se mouvoir dans des directions que Dieu veut qu'on monte pour être des témoins? Ça, c'est une question de notre prédication du frère Barnum. Pourquoi le Saint-Esprit était donné? Juste, pourquoi le Saint-Esprit était donné? Vous voyez? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide tous, son Église, son peuple. Alléluia. Verset 15. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Pour être, pour combien de temps? D'après vous, pour combien de temps? Vous voyez? Pas un réveil, un autre réveil. Une onction à une autre onction. Mais définitivement pour l'éternité. Ça, c'est le consolateur que Dieu nous a donné. Ça, c'est la Pentecôte. Alléluia. Ça, c'est l'expérience réelle, authentique. Alléluia. Vous voyez? Pour être avec vous éternellement l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Que le monde ne peut pas recevoir. Comment on peut savoir si ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai? Des fois, il y a des gens qui se comportent d'une manière erronée, non conforme aux Écritures. Mais nous connaissons la vérité. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait la grâce d'avoir l'esprit de la vérité. Alors là, on connaît parfaitement, on sait que le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas. Il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Est-ce qu'on le sent? Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, renouvelle, fais-nous faire encore une expérience de Pentecôte? avec toi, de nouveau. Exactement le premier amour. Le premier amour, mes amis. Recherchons-le de tout notre cœur. Ce désir profond du premier amour. Parce que sans cela, c'est impossible de plaire à Dieu. N'est-ce pas? Impossible de plaire à Dieu. Ce désir profond du premier amour. Cette onction, cet esprit qui est venu à l'intérieur. Et puis le temps est passé, les situations ont changé. Aujourd'hui surtout, ça fait un an, un peu plus, un an et demi avec ce coronavirus. Regardez un peu comment beaucoup de personnes se sont arrêtées. Mais il y a un roi, il y a un roi. Et la vie personnelle, elle est où? Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous avez concrétisé la chose? C'est vrai. Il y a un roi. Mais dans la vie personnelle, c'est important. Ici, on parle de cela. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Parce que moi, je vis. Lot ne l'a pas vu. Pourquoi Lot? Quand il se tourmentait l'âme, au lieu de se tourmenter, il dit, regarde, faisons une chose. Mes enfants, faisons une chose. Nous partons. On a fait une expérience négative, on a fait une expérience difficile, partons. Alors, partons. N'est-ce pas? Ce n'est pas venu, ça ne vous est pas venu à cœur, cette chose. Quand vous voyez un poste qui ne marche pas, on dit, allez, on part. On part. Ici, il y a quelque chose qui ne va pas. On part. Donc, faites attention. Les choses que Dieu nous fait voir sont des choses que Dieu nous fait voir. Il y a le subconscient qui te parle. Quand le subconscient te parle, faites attention. Parce que parfois, c'est le diable qui te parle. Et toi, tu dois l'affronter dans ton subconscient. Qu'est-ce que tu dis? L'œuvre du sang de Jésus-Christ, c'est fait une fois pour toutes. Où tu vas? On a des témoins. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans le subconscient, il vient. Et il veut vous donner du tourment. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Encore quelques versets. Il continue. Donc verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en vous, je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Donc le verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Voilà l'unité de l'esprit. L'unité de l'Église. Voilà où elle est. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Alléluia. Maintenant, Actes des Apôtres, chapitre 4. Et ensuite, nous terminons. Actes des Apôtres, chapitre 4. Dieu puisse te faire vivre sa vie. Dans la tranquillité. Rempli dans la tranquillité. En rejetant tout ce qui vient du diable. Les pensées. Une situation qui se présente. Faites bien attention. Parce que le diable est toujours là, à la porte, vous voyez? Comme un lion qui rugit. Et il essaye d'attraper quelqu'un. Ne nous laissons pas attraper par le diable. Amen. Acte 4. Quand Pierre et Jean ont été pris, donc Pierre a été châtié, et puis on l'a laissé. Et après les avoir laissés, on lit à partir du verset 23. Actes 4, 23. Et ayant été relâchés, ils vinrent vers les leurs, ils se sont rencontrés avec les frères, et leur rapportèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et l'ayant entendu, ça c'est une chose, je le crois de tout mon cœur, que l'Église de Jésus-Christ, la vraie Église de Jésus-Christ, devrait faire. Écoutez bien. Et l'ayant entendu, ils élevèrent d'un commun accord leur voix à Dieu et dirent, « Ô souverain, toi qui es le Dieu qui a fait le ciel et la terre et la mer. » Imaginez une congrégation comme cela, quand on voit de l'opposition. On voit que le diable veut mettre des tourments, des problèmes. Ils se réunirent et dirent, « Ô souverain, toi qui es le Dieu qui a fait le ciel et la terre et la mer, et toutes les choses qui y sont, qui a dit par la bouche de David ton serviteur, pourquoi se sont déchaînées les nations et les peuples ont-ils projeté des choses vaines ?» Les rois de la terre se sont trouvés là et les chefs se sont réunis ensemble contre le Seigneur et contre son Christ. Car en effet, dans cette ville, contre ton saint serviteur Jésus. Contre ton saint serviteur Jésus. Vous avez saisi cela. Donc tout le monde s'était réuni, regardez. Donc il y avait des gens politiques, des gens de la société, il y a de tout ici. Les rois de la terre se sont tous trouvés là et les chefs se sont réunis ensemble contre le Seigneur et contre son Christ. Car en effet dans cette ville, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, se sont assemblés Hérode et Ponce Pilate avec les nations et les peuples d'Israël, pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient à l'avance déterminé devoir être faites. Et maintenant, au présent, et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec toute hardiesse. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? En étendant ta main pour guérir, et pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ça, c'est la prière des disciples. Devant tout le monde. Cette prière était faite devant tout le monde. Quand il y avait cette opposition, quand il y avait cette différence, quand il y avait l'incompréhension du peuple juif, tous ensemble, unis, regardez la prière qui est sortie. Que Dieu nous aide à vraiment avoir une expérience nouvelle, une Pentecôte nouvelle, afin que Dieu puisse être glorifié parmi nous. Et il termine en disant, « Et comme ils faisaient leur supplication, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse ou assurance. » Voilà la pluie qui doit vraiment venir maintenant, la pluie, je répète, la pluie de la première et de la dernière saison. Prions afin que cette prière puisse être parmi l'Église, vraiment au milieu de l'Église, là où il y a vraiment des choses profondes, et on peut voir Dieu en action, n'est-ce pas? Vous pensez que ce sont des paroles? Moi, je crois que non. C'est une réalité divine. Que Dieu fasse grâce. Et pourtant, on a eu le Saint-Esprit. Là, ils ont eu la Pentecôte. On a eu la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit. Mais voici que ici, hop, il y a quelque chose qui est en plus. Il y a quelque chose qui vient en plus. Pour donner la force, courage, pour les instruire toujours plus et les faire aller de l'avant, tant que ce que Dieu a promis puisse se produire, puisse arriver. Dieu ne peut rien, ne peut pas donner quelque chose à des enfants, à des gens qui sont en train de croître ou qui sont encore ballottés par-ci, par-là. Que Dieu nous aide à être fermes dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Parce que ça, ça doit se passer, ça doit se produire. Cette unité d'esprit doit arriver. L'expérience de l'un fortifie l'autre, et l'autre fortifie l'autre. Et tous unis ensemble. Ce moment arrivera. Vous y croyez? Le tremblement de terre arrivera. Là où le diable où sera arrêté définitivement envers l'épouse, et l'épouse sera enlevée. Amen. Il ne se leur a accordé aucune déviation. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Ça, c'est la vérité. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Et qu'il nous donne cette foi nécessaire. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Pourquoi la Pentecôte est venue? Pourquoi Dieu a traité avec Abraham? Alléluia. Et en fermant les yeux, il a dit, Seigneur, fais grâce, je suis là. Je suis là. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as formé encore. N'est-ce pas? Voilà, je viens à toi. Pour faire pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Que Dieu nous bénisse tous, un par un, dans toutes les familles, chaque cœur. Et j'espère que ce matin, le Seigneur a béni nos cœurs. Il nous a donné la clarté, il nous a rafraîchi la foi. Il nous a fait grâce. Amen. Alléluia. C'est important. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons prier. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre de prier. À lui la gloire, l'honneur, le remerciement. À Dieu la gloire. Pour ce qu'il a mis dans nos cœurs. Donc, frères, vous pouvez prier. Sentez l'adoration de votre cœur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, tu t'es manifesté dans ce monde. Seigneur, nous savons que personne ne se perdra. Envoie encore ta Pentecôte, Seigneur. Ouvre nos yeux sur ton œuvre. Fais-nous reconnaître que tu es ce que tu es en train de faire maintenant, Seigneur. Pardonne pour tout ce qu'on a fait de mal. Et tu nous pardonnes parce que tu es Dieu miséricordieux. Aide-nous, Seigneur, afin que nous aussi nous soyons miséricordieux. Accorde-nous, Seigneur, ta guide. Révèle-nous comment, ce que nous devons faire, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Merci pour ta présence, Seigneur. C'est toi qui nous fais aller de l'avant. Merci, Seigneur, pour la Pentecôte, pour la foi d'Abraham, qu'elle puisse vraiment souder chaque cœur vers toi, et que c'est la prière qu'on a lue, Seigneur, que cette prière puisse sortir de chaque cœur, et manifester que tu es le Dieu du ciel et de la terre. Oui, Seigneur, bénis encore cette journée. Bénis, Seigneur, ta parole. Glorifie ton Saint-Nom, le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Frère Gianfranco. Seigneur Jésus, merci vraiment. Parce qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, on se souvient de ce qui a été fait. Et qu'aujourd'hui, nous avons encore écouté. Être pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui ont cru et pour tous ceux qui ont fait ce pas vers toi. Parce que tu nous as appelés. Fais, Seigneur, que tout ce que nous avons entendu puisse être vrai, puisse être vécu. Et qu'il y ait cette parfaite union de toute l'Église. Sur toute la terre, Seigneur. Parce que ce ne sera pas seulement une assemblée ou des petits groupes par-ci, par-là, mais ce sera, Seigneur, tous ceux qui font partie de ton épouse, Seigneur, et tout, et ta puissance sera manifestée sur toute la planète. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous rends participants de cette chose. Et Seigneur, te prions, mets devant chacun d'entre nous ce modèle parfait, et que, à chaque fois, on puisse voir qu'on est derrière toi. On a ta parole, tes enseignements, tes ministères pour l'édification de ton Église. Mais comme tu as dit, comme on l'a entendu ce matin, on n'a pas besoin d'un pape ou d'un homme, on a besoin de toi, Seigneur. Seigneur, vraiment, je te remercie pour tout. Je te prie, Seigneur, vraiment, rends-toi visible à nous, Seigneur. Comme on l'a lu, comme on l'a prié, bénis encore toutes nos familles, tous ceux qui n'ont pas encore eu de contact avec toi, Seigneur, nous avons foi en toi, que tu le feras, et tu es en train de le faire. Il y a toujours des choses dans leur cœur, Seigneur, aide-les. Nous te remercions, Seigneur, pour cette journée que tu nous as donnée, pour cette parole, Seigneur. Et nous te remercions pour les ministères, mais tu nous as fait grâce d'avoir donné, Seigneur, des ministères de notre assemblée. Béni, Seigneur, le frère Franco. Béni encore le frère Evan Franco en Allemagne, Seigneur. Et nous te remettons encore le peuple d'Israël, Seigneur. Il est en train de vivre un moment difficile, mais ces choses font aussi partie des signes de la fin. Bénis-les, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, que ta bénédiction qui a été avec nous pendant ce petit moment, accompagne-nous, continue de nous accompagner et que ta main soit avec nous avec puissance, consolation et bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te remercie. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous.